Bonjour à tous. Donc Jean et Régine sont en Creuse, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Ils sont partis jeudi, normalement ils reviennent mercredi pour être avec nous jeudi de l'Ascension. Donc ils sont là-bas et bon, ils font quelques travaux là-bas, peinture pour rénover un petit peu certaines choses qui doivent être rénovées. Sur le bâtiment, et puis aussi, bon, ils vont passer le culte d'aujourd'hui avec les frères et sœurs qui sont là-bas. Alors, je voudrais lire avec vous, mais avant, nous allons prier encore pour que le Seigneur nous guide. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter ce matin, Seigneur, c'est ta parole que nous voulons entendre, c'est ton esprit qui doit nous parler, nous convaincre. Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire, Seigneur, pour que nous puissions continuer à avancer, à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Bénis nos frères et sœurs, Jean et Régine, renouvelle-les, fortifie-les, ainsi que tous les frères et sœurs qui sont là-bas en Creuse. Renouvelle, Seigneur, renouvelle ceux qui sont en souffrance aussi, Seigneur, qui sont dans la tristesse, la douleur. Seigneur, renouvelle tous nos frères et sœurs qui s'étaient assemblés avec nous ces derniers temps. Renouvelle-les, chacun garde-les, protège-les, guide-les, Seigneur. Amen. Alors, je voudrais lire avec vous dans Philippiens. Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 12 et les quelques versets suivants. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. L'apôtre a été sauvé par Jésus-Christ. Mais il dit aussi qu'il a été saisi par Jésus-Christ, selon son expression. Il a été saisi par Christ pour accomplir une mission, une œuvre. Et il a donc un objectif à atteindre. Dans un autre passage, il dira « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat ». J'ai gardé la foi. Quand il commencera à pressentir sa mort prochaine. Mais ici, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il veut encore continuer à avancer pour saisir le prix. Paul n'est pas dans l'autosatisfaction. Il ne veut pas se reposer sur ce qu'il a déjà fait. Il ne veut pas regarder en arrière, laissant ce qui est en arrière et regardant vers l'avant. Il continue sa course. Il a une mission et il la continue. Et cela doit être aussi notre attitude à chacun, d'accomplir jusqu'au bout l'œuvre que le Seigneur nous demande. à tous, parce que le Seigneur demande quelque chose à tous. Une œuvre à accomplir, même si ce n'est pas, bien sûr, la même œuvre que l'apôtre Paul a accomplie. Hein, peut-être que nous n'allons pas parcourir le monde entier pour apporter l'Évangile. Mais nous avons tous quelque chose, une œuvre à accomplir, que le Seigneur nous confie au sein de notre famille, au sein de l'Église, au sein de notre voisinage, au sein de notre lieu de travail. Nous avons à transmettre ce message de l'Évangile. Et nous devons continuer cette œuvre, toujours aller de l'avant, toujours garder le même objectif. Oubliant ce qui est en arrière. Alors bien sûr, il faut tenir compte hein, du passé. Il faut tenir compte du passé pour éviter de faire les mêmes erreurs. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre nous dit que, en parlant du peuple juif, etc., et tout ce qui est écrit pour nous dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament, il dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour faire certaines choses, mais aussi pour ne pas faire comme ils ont été. Hein. Donc il faut tenir compte du passé, il faut tenir compte de ce qui a été raconté, ce qui a été dit, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais nous ne pouvons pas être tournés vers le passé. Et nous ne pouvons pas non plus être tournés vers ce que nous avons déjà fait. Il nous faut regarder vers l'avant et agir dans le présent, dans la société actuelle. Et de cette façon, chaque génération doit agir dans la société dans laquelle il est, avec les méthodes qu'il peut employer dans cette société, mais nous avons toujours cette même œuvre à accomplir, qui est de transmettre l'Évangile. Et nous ne pouvons pas nous plonger dans ce qui a été fait au cours des années, même au sein de cette Église. On ne peut pas toujours regarder vers le passé, il faut regarder vers l'avenir. Aller de l'avant. Donc nous tous donc qui sommes des hommes faits, alors bon, on n'a jamais l'impression d'être vraiment complètement accompli. Hein. En fait, l'apôtre veut certainement en dire ceux qui sont dans la maturité spirituelle, hein, qui ont compris quand même un certain nombre de choses qui concernent la foi, nous devons avoir la même pensée que l'apôtre, et donc toujours avancer en cherchant à transmettre à notre génération le message de l'Évangile, le salut en Jésus-Christ, hein, de toutes les façons que le Seigneur nous inspire. Et si nous demandons le secours de Dieu, il va nous instruire par le Saint-Esprit, ce qu'il veut dire là, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est-à-dire tout au long de notre marche, Dieu va nous éclairer sur certains points que l'on n'aura peut-être pas compris au début, et petit à petit, le Seigneur va nous éclairer et nous allons comprendre tout le message, toute la plénitude du message de l'Évangile, de la grâce, tout ce que nous devons comprendre, et oui, le Seigneur va nous le faire comprendre au fur et à mesure de notre marche. Hein, donc si nous demandons le secours de Dieu, ben, il nous instruira par le Saint-Esprit tout au long de notre marche. Alors, le verset, en fait, auquel j'avais pensé pour ce message, c'était la fin de ce passage. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. La question, c'est à quel point sommes-nous parvenus? Que croyons-nous? Sommes-nous tous sur la même base? Sommes-nous tous sur le même fondement de foi? Alors dans Hébreux au chapitre 6, versets 1 à 3, je vous lis, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Les apôtres ont posé le fondement. Et donc l'apôtre semble dire que bon, on ne va pas reposer ce fondement qui a déjà été posé. Normalement, tout le monde est censé être au courant. Tout le monde est censé connaître ses fondements. Alors, est-ce que nous sommes bien tous fondés sur ce bon fondement? Parce que l'apôtre veut aller plus loin. Il veut aller plus loin dans, en profondeur, dans tout le sens de l'évangile, de la grâce, hein, de l'esprit, de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre et connaître de sa gloire, nous faire participer à son œuvre. Alors, pour pouvoir avancer, il faut tous partir de la même base. Hein, qu'on ait tous le même fondement. Alors, quelle est cette base que l'apôtre espère connue de tous? Alors, nous venons ici d'origines diverses. Il y en a beaucoup qui sont dans l'Église depuis un certain nombre d'années, mais il y en a qui viennent nouvellement, qui ont été enseignés dans d'autres églises, dans d'autres pays même. Et nous avons peut-être des bases un petit peu différentes. Peut-être qu'il y a des petites choses qui peuvent diverger un peu. Alors, il est peut-être important quand même de rappeler les fondements de notre foi, toujours, pour les anciens, mais aussi pour les nouveaux, hein, ceux qui s'assemblent avec nous depuis quelques mois, quelques années. Toujours revenir aux fondamentaux. Alors, qu'est-ce que l'apôtre a énuméré dans ce passage précédent, là, donc en Hébreux 6? Il parle de la foi, hein, sans le fondement de la foi. Alors la foi, ben, on peut lire dans Hébreux au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien sûr, c'est le fondement. On ne va pas s'assembler si on n'a pas la foi en Dieu, si on ne croit pas en Dieu. Mais pas seulement croire en un Dieu vague, hein, en un Dieu vague qui aurait créé le monde, et puis ensuite qui l'aurait laissé comme ça à l'abandon, en laissant les hommes se débrouiller. Non, ce n'est pas ce Dieu-là que nous croyons, en un Dieu créateur, mais nous croyons aussi en Dieu qui s'est révélé au peuple hébreu, qui s'est révélé à Abraham, qui s'est révélé ensuite à Moïse, hein, ce Dieu créateur qui a parlé aux hommes. C'est en ce Dieu-là que nous croyons, pas n'importe quel Dieu. Dans le monde, il y a tellement de divinités, on en a déjà parlé, tellement de divinités qui sont adorées par différents peuples. Mais nous ne croyons pas en n'importe quel Dieu, nous croyons dans le Dieu créateur, dans le Dieu qui s'est révélé et à qui nous pouvons nous adresser. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il récompense ceux qui cherchent Dieu. Donc, Dieu voit en tout peuple ceux qui le cherchent. Oui, ce Dieu s'est révélé, ce Dieu nous a parlé, et nous savons que nous pouvons nous adresser à lui. Et que Dieu voit sur le monde, sur toute la terre, il voit les personnes qui le cherchent. Il voit les personnes qui ont foi en lui, qui recherchent sa face, qui ont envie de connaître qui il est. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se révèle aussi à ceux qui le cherchent. Alors, le renoncement aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. Dans Galates, au chapitre 2, verset 16, il nous est dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Dieu a donné à Moïse une loi qui montre sa sainteté, qui montre ses exigences, et en même temps qui montre malheureusement notre incapacité. Et dans Éphésiens, l'apôtre continue au chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce qui se passe, c'est que dans toutes les religions, finalement, souvent, c'est le principe des œuvres qui revient en premier. Il faut faire pour espérer être sauvé. Il faut faire des pèlerinages pour espérer être sauvé. Par exemple, dans certains peuples, il faut aller à tel endroit. Voilà, il y a tout des œuvres à faire. Et les gens ne sont pas toujours sûrs d'être sauvés. Est-ce qu'on aura satisfait Dieu ? Est-ce que par ce que l'on aura fait, on sera justifié ? Mais justement, tout le travail de l'apôtre a été de montrer que ce n'est pas ce que nous faisons qui nous fait mériter le ciel. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Et c'est très important. Les œuvres, elles viennent après. Parce que bien sûr, il y a l'apôtre Jacques qui dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Oui, les œuvres, elles sont là, mais après avoir été sauvés. Nous sommes sauvés tous par la grâce, par la croix de Jésus-Christ. Et les œuvres viennent montrer, démontrer en quelque sorte que effectivement nous avons été sauvés, nous avons été transformés, nous avons une nouvelle vie et nous pratiquons les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, bien sûr, nous agissons, mais ce ne sera jamais nos œuvres qui nous justifieront. C'est pourquoi l'apôtre aussi tout à l'heure dit, oubliant ce qui est en arrière, tout ce que j'ai pu faire déjà, tout ce que j'ai pu pratiquer, tout ce que j'ai fait même pour l'œuvre de Dieu, je ne vais pas m'appuyer là-dessus. Je reste toujours dans cette pensée que c'est par la grâce que je suis sauvé, jusqu'au bout. Donc, ça c'est important que nous soyons tous sur cette base. Nous sommes tous sauvés par la foi, uniquement. Et cela nous amène, bien sûr, à pratiquer. Le troisième élément qu'il nous cite, c'est le baptême. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle ici de la doctrine des baptêmes. Mais quand il dit des baptêmes, peut-être renvoie-t-il aussi aux différents baptêmes qui étaient pratiqués par les Juifs. Il y avait les Juifs, il y avait aussi le baptême de Jean, et après il y a eu le baptême de Jésus-Christ. Donc, il parle des baptêmes parce qu'à son époque, il a fallu qu'il mette quelquefois les choses au point. Par exemple, dans Actes 19, au chapitre 19, Paul rebaptise 12 personnes qui avaient été baptisées du baptême de Jean. Donc, ils avaient été baptisés du baptême de Jean, mais ils ne connaissaient pas le baptême en Jésus-Christ. Donc, ils n'avaient pas pu. Le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Donc, ils s'étaient repentis de leurs péchés devant Dieu, mais ils n'avaient pas confessé leur foi en Jésus-Christ, qui est leur sauveur, leur Seigneur, qui lui leur a acquis le pardon. Donc, Paul les a rebaptisés en Jésus-Christ. Donc, au début, il y avait peut-être plusieurs baptêmes, il a fallu qu'ils mettent un petit peu les choses au point. Parce que Jésus a été simple dans ce qu'il a dit. Jésus, Marc 16, 15, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et aussi dans Matthieu 28, au verset 19, on voit Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, Jean, qu'on a appelé Jean le Baptiste, il faisait un baptême qui était un baptême de repentance. Les Juifs de l'époque venaient à Dieu pour se repentir, mais ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ et au nom du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore cette vision-là. Hein? Jean, après, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais les apôtres, ensuite, ont baptisé, comme Jésus leur avait dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'était donc le baptême que les apôtres ont retenu, qu'il fallait pratiquer et que tous les chrétiens, ensuite, ont pratiqué. Il y a un seul baptême, en réalité, puisque dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Donc au départ, il n'y a qu'un seul baptême, hein, il n'y a pas 36 baptêmes, il n'y a que le baptême de ceux qui s'approchent de Dieu, qui croient en Jésus-Christ, qui confessent leurs péchés, qui confessent leur ancienne vie et qui acceptent le salut qui est accordé par Jésus-Christ. Le problème est venu après parce que, bien sûr, les religions s'établissant, ils ont installé certaines pratiques qui n'étaient pas conformes au premier enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Donc un seul baptême. Il faut que l'on soit bien aussi tous sur ce même fondement, ce seul fondement. Donc le baptême. Alors, après, l'apôtre cite l'imposition des mains. Dans Actes 8, au verset 14, nous lisons « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Alors, donc, l'imposition des mains est un geste qui est pratiqué par les chrétiens dans certaines circonstances. Ici, c'est une circonstance qui est assez particulière, puisque ces Samaritains n'ont pas reçu l'Esprit. Ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit. Et comme c'était le début, il y a eu l'Esprit qui est descendu à Jérusalem, sur les apôtres, et ensuite, il y a eu différentes manifestations particulières. Donc là, les apôtres ont dû imposer les mains. Mais par contre, le récit nous montre tout de suite qu'il y a des déviations qui sont tout de suite possibles. Parce que Simon le magicien a vu que les apôtres avaient un certain pouvoir. Et lui, il voulait manifester ce pouvoir, cette puissance. Hein, donc il a voulu acheter ce don, de transmettre par l'imposition des mains. Donc tout de suite, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent détourner ce geste. Et ils détournent ce geste parce qu'ils pensent pouvoir prendre en quelque sorte le pouvoir sur les autres. Le geste d'imposition des mains, c'est en quelque sorte se placer au-dessus et transmettre quelque chose et donc en quelque sorte avoir un certain pouvoir. Et ce qui est utilisé par malheureusement différentes personnes. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, en parlant de l'imposition des mains, il dit à Timothée, il dit au chapitre 5, verset 22, il dit « N'impose les mains à personne avec précipitation. » et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Alors bien sûr, c'est un sujet qui peut-être demanderait à être examiné davantage. Enfin, l'apôtre dit quand même que ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire sans réflexion. Et on ne doit pas faire ça rapidement. L'imposition des mains est un geste à faire à certains moments particuliers. Et pour ça, il faut une certaine réflexion. Ça ne doit pas se faire n'importe comment. Il le recommande quand même à Timothée. Après, l'apôtre Paul nous parle de la résurrection. Hein, bien sûr, c'est quelque chose qui est le fondement, un fondement de la foi chrétienne. Hein. Et Paul, bien sûr, nous l'explique très bien, donc je vais simplement relire. Mais tous ces passages, normalement, tout le monde les connaît. Mais enfin, c'est important quand même de toujours rappeler certaines choses qui semblent être logiques. Mais quelquefois, quand on parle avec des personnes, c'est pas logique du tout, c'est pas simple. On s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Hein, parce qu'il y a toujours d'autres notions qui peuvent se greffer, d'autres notions qui ont été apportées par différentes religions. Et la résurrection, c'est pas quelque chose de simple à comprendre pour tout le monde. 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc c'est quelque chose de très important et que tout le monde doit bien comprendre. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, c'est-à-dire selon ce qui avait été prédit. Les Écritures l'avaient prédit. Donc, selon les Écritures, Jésus est bien ressuscité. Et il est apparu à Céphas, donc à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, la résurrection des morts, c'est une doctrine chrétienne qui est, on ne peut plus claire, et importante. Quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection et qui ne croit pas dans la résurrection de Christ, ben, il n'est pas du tout sur la même base. Il peut venir dans une assemblée chrétienne, mais s'il ne croit pas à la résurrection de Christ, il n'est pas du tout sur la même base, et on peut même dire qu'il n'est pas du tout chrétien. Il n'est tout simplement pas chrétien. Celui qui est chrétien, il croit que Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts et qu'il reviendra. Il croit aussi que nous serons aussi, à un moment donné, ressuscités. Ça fait partie intégrante de la foi chrétienne, et si on ne croit pas à ça, notre foi elle est complètement vaine, ça veut dire que on est perdu à un certain moment. L'apôtre dit, nous sommes perdus. Donc voilà, c'est un des fondements. Autre fondement que l'apôtre signale, c'est le jugement. Et en Hébreux 9, 27, il dit tout simplement, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Rien que dans ce verset, ça, tout de suite, on peut répondre à une personne qui croit en la réincarnation. Maintenant, il n'y a pas de réincarnation, c'est impossible, il n'y a aucune réincarnation possible, puisqu'il a été dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, il y a des gens qui aiment bien, qui se disent chrétiens. J'ai déjà parlé avec une collègue, elle est chrétienne, puisqu'elle a dit qu'elle a pris même son baptême à l'église catholique en étant adulte. Et pourtant, elle est quand même... la réincarnation, ça lui parle, ça... Vous voyez, ça... Maintenant, on ne peut pas être chrétien et croire à la réincarnation. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il y a un jugement éternel. Il y a un jugement, et c'est justement parce qu'il y a un jugement qu'il y a aussi un salut. S'il n'y avait pas de jugement, ben, il n'y aurait pas besoin d'être sauvé. Hein. Donc il y a un jugement qui aura lieu à l'heure que Dieu aura décidé, et on échappe à ce jugement par le salut qui nous est offert gratuitement à la croix par le Seigneur Jésus. Donc ce sont toutes des choses simples, mais ce n'est pas si simple. Vous voyez, ce n'est pas si simple pour certaines personnes qui mélangent un peu tout ce qu'elles entendent de différentes philosophies. Tout ça, ça semble agréable pour certaines personnes, et elles mélangent. La parole de Dieu est simple. Il faut qu'on soit tous sur le même fondement, la même base. Et il y a donc un jugement, il y a un salut, et on n'ira pas tous au paradis, comme le dit le chanteur. Et maintenant, il l'a fait exprès pour provoquer, bien sûr, c'est une chanson qu'il a faite pour provoquer. Hein. Mais voilà, on n'ira pas tous au paradis. On aimerait bien que tout le monde soit sauvé. Mais si tout le monde était sauvé, ben, il n'y a plus besoin d'évangéliser non plus. Hein. Maintenant, restons chacun chez nous. Et puis voilà, c'est tout. Si le Seigneur envoie ses disciples par tout le monde, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui sera baptisé et qui croira sera sauvé. Autrement, ben, si tout le monde est sauvé, pas besoin de faire tout ça. D'accord ? Donc, voilà, il y a un jugement et il y a un salut. Jésus est la parole de Dieu. C'est aussi quelque chose que nous croyons, bien sûr, puisque nous sommes chrétiens. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, est dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ, la parole de Dieu, faite chair. Donc voilà la base qui doit nous réunir. Si nous sommes tous sur cette même base, nous pouvons ensuite faire ce que l'apôtre dit, marchons d'un même pas. Dans ce passage qui nous dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Si nous avons tous ces éléments de la foi, que nous les croyons fortement, ça fait partie de ce que nous croyons, eh bien nous sommes sur la même base. Et maintenant nous pouvons donc marcher ensemble, au même pas. Alors, rapidement, je vais dire quelques mots sur cette phrase, marchons d'un même pas. Alors marcher d'un même pas, ça ne veut pas dire marcher au pas. Ça ne veut pas dire marcher au pas comme à l'armée. Au pas cadencé. Hein. Comme des soldats. Hein. L'apôtre fait référence aux soldats, aux armes pour combattre, d'accord. Mais quand il dit marchons d'un même pas, ça ne veut pas dire marcher au pas. Hein. Parce que quand on dit à quelqu'un je vais te mettre au pas, c'est pas une expression très bien reçue. Hein. Donc c'est pas ça du tout dont il s'agit. Hein. Ce n'est pas non plus une marche forcée, hein, où il faut aller tous plus vite possible, et puis que tous les faibles, on les laisse au bord du chemin, et puis voilà, non, c'est pas ça du tout. Hein. Marchons au même pas, ça veut dire marchons vraiment ensemble. Ensemble. Marchons ensemble, pas individuellement. Beaucoup de personnes maintenant sont chrétiennes, mais de façon très individualiste. Elles sont chez elles, elles regardent sur Internet, elles écoutent des cultes par-ci par-là, elles reçoivent tout pour elles, mais c'est tout, elles sont pour elles-mêmes. Mais c'est pas ça du tout. Hein. Marchons, l'apôtre dit, marchons ensemble, marchons haut d'un même pas. Rappelons-nous que nous avons été ajoutés à l'Église. Dans Actes, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Bon, c'était le début de l'Église, hein. Ça se pratique peut-être pas tout à fait comme ça maintenant, mais ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne de façon individuelle. Le Seigneur nous a ajoutés à l'Église. Et l'Église, ce n'est pas n'importe quoi. L'Église, c'est le corps de Christ. Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous devons marcher ensemble. Ensemble, nous sommes le corps de Christ. Hein? Nous ne sommes pas par-ci, par-là, individuels, non. Nous sommes ensemble, nous faisons partie du corps de Christ. Et il y a des forts, il y a des faibles. Les uns doivent aider les autres. Et réciproquement, parce que selon les périodes, chacun peut avoir des hauts et des bas. Et quand l'un est faible, c'est l'autre qui vient l'aider. Et puis quand il a repris des forces, bien, il va peut-être aider un autre. Donc chacun s'aide mutuellement. Donc Romains, je cherche le passage là sur Romains 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. On ne vit pas de façon individualiste et chercher seulement ce qui nous plaît à nous. Non, on vit ensemble et on se fait progresser les uns les autres. Et en Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Oui, on doit progresser ensemble. On a tous été pardonnés par le Seigneur, on est tous sur la même base. Mais après, ben voilà, on a tous chacun son caractère. Hein. Et il faut aussi apprendre à vivre ensemble, et à progresser, et à marcher ensemble. Nous vous en prions, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Chacun doit, voilà, user de patience, parce que voilà, quelquefois peut-être que nous on aurait envie de marcher vite, et puis il y en a qui sont à la traîne. Imaginez qu'on soit tous, par exemple, on s'est donné rendez-vous sur la même base, sur le même plateau. Et puis on dit, bon, maintenant on va monter la montagne ensemble. Ben, il ne s'agit pas que ceux qui sont forts, allez, ils vont en premier là, et puis ils laissent tous les autres derrière avec les sacs et tout. Et puis que les autres attendent à l'arrière, n'arrivent pas à avancer. Non, chacun doit s'aider. les forts doivent prendre des sacs, et puis ainsi de suite. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des enfants, il y a des vieillards. L'Église, c'est un corps. Et c'est pour ça que l'apôtre dit « marchons d'un même pas, ensemble ». Donc, on ne doit pas vivre en étant toujours les premiers en avant, on doit s'occuper de ceux qui sont à l'arrière, mais on ne doit pas non plus se tenir à l'écart sans s'occuper des autres, de vivre de façon égoïste. Non, il faut tenir compte de la vie du groupe. Ça, c'est très important. Adopter une marche qui permet à tout le monde de suivre aussi, hein, pour que personne ne se perde. Nous devons tenir compte de chacun, et ça, c'est très important dans l'Église. Voilà, donc, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais m'arrêter là. C'est une longue marche, hein, il y a le chemin étroit. Jésus nous a dit que c'était un chemin étroit, resserré. Hein, quand il y a entré par la porte étroite, hein, car large est le chemin, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Et autrefois, nous, on marchait sur la voie spacieuse. Hein. Hein, vous tous, vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Nous étions sur la route large, mais maintenant, nous nous sommes rassemblés en Jésus-Christ et nous marchons sur ce chemin étroit. Et donc nous devons avancer ensemble. Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons bien chausser, ceux qui font de la montagne le savent. On ne va pas en montagne en tongs, hein, on prend des bonnes chaussures. Et bien c'est pareil avec la vie chrétienne. Les bonnes chaussures que nous devons avoir, c'est le zèle que donne l'Évangile. Le fait d'avoir reçu l'Évangile et de pouvoir le transmettre, ça doit nous donner du zèle. Alors si on en manque un peu, si on est fatigué, si on est un peu fatigué, oui, on n'a plus de zèle de la même façon, il faut demander au Seigneur vraiment de nous redonner du zèle, de l'amour, pour pouvoir avancer. Ce n'est pas une voie facile. Hein, Jésus n'a pas prêché l'évangile de la réussite, hein. Il n'a pas dit qu'on serait riche, qu'on ferait des affaires, ça c'est pas du tout ça. Le Seigneur, il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc ça ne sera jamais une vie facile, la vie chrétienne, mais le Seigneur est avec nous et nous devons nous entraider les uns les autres et marcher d'un même pas ensemble, alors que le Seigneur nous aide dans ce sens.